Aujourd'hui, elle est allée voir une expo, quelques tableaux d'une artiste présentée chez Agnès B. On aura également avec nous Thomas Poveda, qui lui va faire une série de chroniques sur les films asiatiques qui sont présents, qui ont été sélectionnés par le Festival international du documentaire. On aura une chronique de Julien Kirsch aussi, qui lui sollicite des programmateurs et leur propose de choisir un film et d'en parler. Une interview qu'il agrémente ensuite des sons du film. On aura également Bernard Favier et Philippe Bérard de l'émission Ciné B, la chronique du cinéma A que vous avez pu suivre toute cette année, les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille. Donc ils seront là tous les soirs avec nous, ils vont aller voir des films, ils vont venir nous en parler. Et on aura également Claire Astier qui, elle, va proposer aux cinéastes, artistes qui présentent des projets au Feed Lab, trois d'entre eux, et à trois réalisateurs, cinéastes, artistes qui ont réalisé leur premier film, de parler de leur film et notamment à travers leur travail sur le son. Miguel Gomez, donc merci d'être avec nous. Votre film Tabou va faire l'ouverture du feed ce soir. C'est un film qui a été vous pourriez nous dire quel effet ça vous fait que votre film soit présenté à l'ouverture de cette nouvelle édition du feed.
Bon, c'est vraiment un plaisir et je trouve ça notable, surtout parce que j'ai jamais fait un documentaire dans ma vie. Et ça, c'est la troisième fois que je suis ici. Et peut-être c'est pour ça que le FIT, c'est le meilleur festival de documentaires au monde. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas documentaires, mais qui peut-être ont des rapports avec des réels. Mais peut-être il faut attendre que
Jean-Pierre nous rejoigne, oui. Mais on l'a déjà entendu nous parler de cette orientation de ce festival, et l'année dernière il y avait une grande affiche du FID qui proclamait Festival International de Cinéma. Donc je crois que les choses sont claires au FID, on parle de cinéma et pas forcément de documentaire ou de fiction. Alors vous étiez présent, Miguel Gomez, en 2008 avec le film ce Cher mois d'août. Quel souvenir vous gardez de ce passage en 2008?
C'était très bien passé, même si j'avais pas un prix, j'étais en compétition, mais ça va, c'est comme ça. Il y a, par exemple, dans ces films, il y a une séquence où on voit dans une salle de cinéma des personnages qui sont en train de regarder un film. On voit pas les films qu'ils sont en train de voir, ça c'est pas dans les films. Donc on regarde qu'eux en regardant les films. Donc c'est une femme, il y a un homme, et l'homme, il est en train de dormir. Donc j'imagine qu'il doit être un peu ennuyé par les films. Et la femme, elle est en larmes.
Ça, c'est dans Tabou, hein, c'est pas dans...
C'est un tabou. Et donc j'étais là-bas en 2008 avec ces Cher mois d'août, pas de prix. Peut-être les jurys cette année, c'était plus comme l'homme que comme la femme dans mon film. Donc pas de larmes et ils ont s'endormi, je ne sais pas. Mais c'était très, très, très bien d'être ici et de présenter ici les films. J'ai de très bons souvenirs. Et l'année suivante, j'étais aussi venu comme jury, précisément, pour La Vengeance.
Cette année c'est donc Tabou, c'est pas un film qui est en compétition hein, au FID, mais par contre c'est un film qui était en compétition au Festival de Berlin, en février dernier, et c'est un film qui a obtenu le prix Alfred Bauer, c'est-à-dire un prix qui récompense un film qui ouvre de nouvelles perspectives dans le cinéma. Vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé Berlin pour vous ?
Bon, c'était beaucoup plus... Il avait beaucoup plus de froid qu'ici. Et donc, il faisait froid et c'était bien passé parce que, enfin, être en compétition dans un festival comme Berlin, c'est un des trois plus grands festivals au monde. Ça signifie pour un film qu'il va être vu par beaucoup de gens, des journalistes, des gens, des spectateurs. Et donc, c'était ça qui est arrivé. Donc, le film était beaucoup remarqué à ce moment. Et ça, c'était très bien pour nous. Après Berlin, on est arrivé à vendre les films pour les salles dans pas mal de pays. Je crois qu'à ce moment, il y a comme 38 pays. C'est un record pour un film portugais. Et bon, c'était le premier moment. C'est très important, cet premier moment où un film est montré. Parce que moi, je crois que les films existent seulement dans la tête des spectateurs. Si les spectateurs arrivent à se pas oublier d'un film qu'ils ont vu, ça, c'est une réussite. Indépendamment de la quantité des spectateurs qui regardent ces films.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le titre de votre film Tabou, en référence directe à un film de Murnau? Vous parliez de mémoire des films.
Et c'est la vérité, c'est que le film avant devrait avoir un autre titre. C'était Aurora. Aurora, en portugais, c'est un nom. C'est un nom d'une femme.
Et c'est un autre film de Murnau aussi?
Ici, l'aurore, oui, c'est l'aurore. Aurora, c'est le titre portugais d'un film de Murnau. Mais malheureusement, je ne sais pas, maintenant je ne suis pas si sûr que ça, il y avait un réalisateur de Roumanie qui a filmé un film qui s'appelait Aurora, précisément. Et donc, je m'avais dit, bon, je peux piquer le titre d'un film de qui s'était fait il y a 80 années, mais c'est pas bien de voler un titre d'un film qui était filmé il y a 10 ans. Donc j'ai changé, j'ai dit, bon, je passe au dernier film de Murnau et j'espère que personne a l'idée de mettre comme titre Tabou. Et oui, dans les films, il y a un rapport. Je crois que c'est moins avec ce rapport avec ces films concrets, Tabou de Murnau. Mais c'est Murnau et c'est Tabou presque comme un symbole d'un cinéma qui est un peu perdu, qui est fini. Et le film n'essaie pas de reproduire ce qui est perdu, mais d'essayer de inventer un chemin pour arriver à quelque chose. C'est à quelque chose qui est très important pour moi, que c'est une sorte d'innocence que je crois que ce cinéma portait ou que les spectateurs de ces films avaient, et que évidemment avec le temps c'est un peu perdu. Et enfin, j'essaie au moins de faire un peu ça.
Vous écoutez Radio Grenouille, on est en compagnie de Miguel Gomez dont le film Tabou fera l'ouverture de cette 23e édition du FID ce soir, donc premier jour du FID. Ça a commencé ce matin, mais ça a commencé aussi un peu avant par des expositions dans quelques galeries marseillaises et par des projections en plein air. On retrouvera Miguel Gomez dans quelques minutes, mais justement, Laure fait des chroniques qui s'appellent Les extraits de Périscope, où elle s'est donné pour mission d'aller explorer un peu tous les à côté du FID, enfin tout ce qui ne se passe pas au Théâtre National de Marseille-Lacrié, qui est le centre du festival. Donc un peu des choses décentrées. Elle est allée pour ce soir voir une expo Galerie Agnès B. On l'écoute.
Alors, je m'appelle Renaud Bagoé, je suis le responsable de la boutique Agnès B. Et donc, nous accueillons Claire Chenet, qui est juste à côté de moi et qui présente ses œuvres.
Bonjour, donc Claire Chenet, je suis peintre et donc j'ai été invitée par la boutique Agnès B à Marseille pour présenter trois grands formats qui sont des encres sur papier. Et également un portfolio de trois reproductions lithographiques.
Agnès B est partenaire du festival depuis des années. Et donc, chaque année, on accueille dans nos locaux, dans la galerie Agnès B, les œuvres d'un artiste.
Agnès B donc, m'a rencontrée aux Beaux-Arts lors du concours des prix des Amis des Beaux-Arts. Voilà, c'est là qu'elle a vu mon travail et elle me soutient maintenant. Depuis l'exposition qu'il y a eu à Paris. Voilà, elle me soutient énormément et je suis très contente de présenter mon travail à Marseille aujourd'hui. Ce sont des encres. En fait, je travaille mon papier vraiment comme un face-à-face. Elles se tiennent à la verticale et je lâche des coulées d'encre de couleurs. De couleurs qui se mélangent en fait directement sur le papier, ce qui crée des nuances à l'intérieur de ces formes abstraites extrêmement circonscrites dans le blanc et en même temps avec les effets de capillarité, il y a cette sensation de vaporeux, de légèreté. Voilà, donc c'est la tension entre les deux qui m'intéresse.
Ce qui est sympa, en fait, on a créé cette galerie parce qu'on trouvait que c'était intéressant de présenter de l'art et que ça soit accessible à tous, en fait, et d'autant plus à Marseille. Je trouvais que c'était intéressant. C'est une grande boutique mixte. C'est la première boutique qui a réellement une galerie. Et donc, on trouvait que c'était intéressant que vraiment que tout le monde puisse en tout cas découvrir des expos chaque année, chaque mois même, puisqu'on en fait assez régulièrement dans ce petit espace. Et donc, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on va avoir des gens qui ne sont pas du tout forcément touchés en tout cas par l'art et qui vont être en tout cas se retrouver devant des œuvres et je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc, on aime bien ça. Agnès s'intéresse énormément à l'art et elle marche énormément avec ça. Elle passe beaucoup de temps avec des artistes. Elle défend aussi beaucoup de projets d'artistes et ça, pour elle, en tout cas, c'était vraiment important, d'autant plus à Marseille. Agnès donc s'intéresse beaucoup aussi au cinéma. Donc elle a une maison de production qui s'appelle Love Stream. Donc elle réédite des vieux films. Le feed pour elle était vraiment un événement, en tout cas pour elle, à ses yeux, très important. Dimanche à midi, on va faire le vernissage de Claire Chénier. Et donc, je voulais inviter tous les fans de Radio Grenouille pour venir boire un verre et manger des cacahuètes avec nous en découvrant des œuvres qui sont magnifiques de Claire Chénier. Voilà.
Alors, l'exposition est du 4 juillet au 1er septembre, vernissage donc le 8.
C'est la boutique Agnès B qui se trouve au 3133 cours d'Estienne d'Orve, dans le 1er à Marseille.
Voilà, donc midi, cacahuètes, apéritifs et vernissage de l'exposition Galerie Agnès B. Et ça tombe bien, vous pourriez enchaîner tout de suite après à 13h45 avec la projection aux variétés du film Tabou de Miguel Gomez, dont on va parler jusqu'à 19h sur Radio Grenouille à l'occasion de cette 23e édition du Festival International du Documentaire à Marseille, qui ouvre aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas réussi à avoir de place pour la soirée d'ouverture pour voir ce film ce soir, allez-y dimanche aux variétés à 13h45. Jean-Pierre Rem est le délégué général du FID. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonjour Marc. Mais je suis obligé tout de suite de vous reprendre, c'est gênant. Vous avez dit encore ce qu'il ne faut pas dire. Vous voyez ce que c'est le Festival international de cinéma et justement d'ouvrir avec le film de Miguel Gomez. Et le signe que,
ouais,
qu'il n'y a plus de frontières et qu'en tous les cas, la fiction est plus que bienvenue et présente.
Ouais, j'accroche encore sur le dé du feed, mais allez, je vais y arriver.
C'est ma faute. Hein, c'est ma faute parce que...
C'est lui qui a commencé.
C'est moi. J'ai dit que la preuve que ça, c'était le meilleur festival de commentaires au monde, c'est qu'il n'avait pas... Que j'étais... Je faisais des films d'ouverture et je n'ai jamais fait un documentaire dans ma vie.
Donc, on entendait parler de cette exposition à la galerie Agnès B. C'est une, comment dire, je ne sais pas si c'est une habitude, en tout cas, c'est une activité que le FID mène depuis plusieurs années, d'ouvrir avant vraiment la manifestation des espaces d'exposition, enfin d'ouvrir des espaces d'exposition, des expos, on va dire, de s'associer à des espaces d'exposition pour montrer de l'art. Quelle est l'intention du FID dans ses actions?
Elle est multiple. Elle est d'une part de rappeler que, enfin de rappeler, ou au moins de suggérer qu'à nos yeux, le cinéma n'est pas une pratique artistique séparée. Ça, c'est très important, que ça prend place dans un ensemble beaucoup plus vaste qui inclut. Disons des pratiques artistiques en règle générale, et en outre c'est aussi de faire signe vers ce qui se pratique à de nombreuses reprises, à savoir que des personnes qu'on nomme artistes, plasticiens plutôt que cinéastes, en fait ont depuis longtemps, c'est sans doute je crois au Jeu de Paume la fois où Chantal Akerman a été exposée comme artiste, que des cinéastes ont été considérés dans cette partie du monde-là, et inversement, donc des plasticiens qui utilisent le support du cinéma ou de la vidéo pour faire ce que je considère être des films. Par exemple, il est arrivé une année que quelqu'un soit en compétition, Philippe Warnel, pour ne pas le nommer, avec un film, mais que son film était aussi présent et d'une autre façon, dans l'espace, comme une œuvre. Voilà. Et puis, ça, ce sont des raisons, disons, théoriques. Il y a aussi des raisons pratiques, qui est que vous parlez de la Criée tout à l'heure, Marc, mais je rappelle qu'on est aussi aux Variétés, à l'Alcazar, à la Maison de la Région, aux Bernardines, et que c'était l'idée que le festival ne se concentre pas en un seul lieu de Marseille, mais qu'au contraire, il soit l'occasion d'une promenade pour les festivaliers, de déambuler de lieu en lieu. Il y a la compagnie avec l'exposition magnifique de Mir Muraté. Il y a la galerie où il y a un collectif, enfin pas un collectif, de jeunes artistes sont présentés également. On aurait aimé être présent cette année à l'espace Montgrand, comme c'était le cas l'année dernière, mais c'est un espace qui n'était pas à ce moment-là disponible et on l'a appris malheureusement un peu tard. Donc c'est, si vous voulez, faire que le festival, ça ne soit pas que des salles obscures, que ça soit la possibilité d'un dialogue avec la ville et aussi de prolonger d'une certaine manière le festival. C'est moins le cas cette année, puisqu'il y a beaucoup des œuvres qui sont présentées dans les espaces d'exposition qui ne sont pas des films, mais par le passé, c'était la possibilité de montrer des films dans une autre perspective et finalement d'augmenter le nombre de possibilités de voir et de découvrir des choses offertes aux festivaliers.
Le théâtre des Bernardines l'année dernière était encore le lieu de convivialité du FID. On se retrouvait en soirée là-bas. Cette année, c'est devenu un lieu de projection.
Oui, parce que c'était un souhait des Bernardines que ça soit un lieu qui vive pleinement. Qui fasse partie pleinement et donc qu'il y ait des projections y compris dans la journée, et que ça ne soit pas simplement un lieu festif. Et nous, on a aussi trouvé ça très bien parce que je trouve le lieu magnifique, et de projeter des films dans une église, enfin je veux dire c'est difficile de rêver mieux. Voilà. Donc, et puis en plus c'est un lieu avec une aura magnifique, mais aussi un type de jauge où on a pris soin de montrer des films qui nous paraissaient pertinents d'être projetés là. Donc ça permet aussi de varier les types d'expériences, parce que je crois on a tendance à l'oublier, mais les salles sont, c'est pas du tout un lieu indifférent. Ici à la Criée, il y a deux salles qui sont deux expériences qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les variétés, c'est pareil. Et je pense que voir un film dans telle ou telle salle, bien, ça modifie les sensations, l'émotion et même l'appréhension même du film.
C'est au Bernardine que Thomas Poveda est allé voir No Man's Zone cet après-midi. Alors Thomas, je disais en introduction de cette émission qu'on te retrouvera tous les soirs et que tu as souhaité porter une attention particulière aux films asiatiques qui ont été sélectionnés dans cette 23e édition du FID cette année. Donc No Man's Zone, c'est le film d'un réalisateur japonais ?
Exactement, c'est No Man's Zone qui est un film franco-japonais réalisé en 2011 par Toshi Fujiwara, bon, et qui a été projeté dans le cadre des écrans parallèles, les films du pouvoir. Dans le pouvoir dont il est question, je tue un peu le suspense, c'est celui de l'image. Mais d'abord, un petit peu de contexte pour comprendre de quoi on parle. Le 11 mars 2011, bien sûr, à la suite d'un tremblement de terre, il y a un immense tsunami qui ravage la côte est du Japon et s'ensuit la catastrophe nucléaire de Fukushima. Donc très rapidement, le gouvernement japonais ordonne l'évacuation d'une zone de 20 km autour de la centrale. C'est la fameuse No Man Zone du titre du film, la zone interdite. Eh bien, avec deux collègues, Fujiwara est parti vers le 20 avril, à peu près un mois après la catastrophe, pour filmer à l'intérieur de la zone interdite et pour y rencontrer ceux qui y restaient malgré l'évacuation donnée par le gouvernement. Alors, autant le dire tout de suite, il n'est pas du tout question dans ce film de désigner tel ou tel responsable de la catastrophe ou même de faire pleurer dans les chaumières, si vous me passez l'expression. Non, non, je disais en préambule le pouvoir de l'image, car en fait, c'est bien la question qui va sous-tendre tout le film. C'est comment filmer une catastrophe qui possède bien sûr un côté visible, le tsunami, et malheureusement invisible, à savoir les radiations apportées par la centrale. Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque part des images qui pourraient presque nous convaincre que quelque chose a eu lieu, alors même qu'on ne voit absolument rien de changé ? Eh bien, dans une première partie, à peu près les deux tiers du film, qui dure une heure et demie, No Man's Zone, il commence par répondre de la manière, on va dire, la plus évidente, à savoir des longs panoramiques de débris apportés par le tsunami, des plans fixes de paysages dévastés, des villages à l'abandon, avec bien sûr, au niveau sonore, le silence qui est quasiment omniprésent, sans être malgré tout oppressant. Et en fait, on va alterner pendant une heure entre ces scènes très silencieuses et les voix des habitants ou anciens habitants de la zone, que finalement on rencontre très peu. Qui c'est qu'on peut voir ? On peut voir deux retraités de la centrale de Fukushima, un agriculteur à temps partiel qui revient de temps en temps sur l'exploitation, ou encore un couple de personnes âgées qui se demandent comment ils vont reconstruire leur maison qui est toujours debout malgré la catastrophe, et des voix off qui vont réagir aux images qui défilent à l'écran, le plus souvent en racontant à quoi ressemblait le paysage avant la catastrophe. Eh bien, ce qu'on peut dire de ces interruptions sonores par les personnes qui sont à l'écran, c'est presque que ce qu'elles disent n'est pas très important. Quelque part, l'image se suffit un peu à elle-même. Et là où Fujiwara, à mon avis, a eu l'intelligence de la réalisation, c'est qu'à partir du moment où quand on commence à se dire ça, là, il nous sort de la No Man's Zone et il nous amène, pour la dernière demi-heure du film, dans le village d'Itate, à 40 km de Fukushima, un village où le taux de radiation était très élevé, et qui, au moment du tournage du film, allait bientôt être évacué, quelques jours après seulement le tournage des scènes. Et en fait, c'est là, quand je disais le rapport à l'image, que l'image, elle va nous perdre. Puisque qu'est-ce qu'on voit là, à ce moment-là du film ? On voit bien des paysages champêtres, très colorés, beaucoup de fleurs, des arbres. On entend même les oiseaux qui chantent, ce qu'on n'entendait pas forcément dans la première partie du film. Et on se demande presque si le réalisateur n'a pas changé de fusil d'épaule pour faire un petit portrait un peu bucolique d'un village sympathique de la campagne japonaise. Et bien là, contrairement à la première partie, il faut attendre vraiment les explications des habitants, des 2-3 habitants qu'on va entendre, pour comprendre où est le problème. Pourquoi ? Parce qu'on voit les rizières vides, alors qu'elles devraient être semées à cette époque de l'année. On voit que la mauvaise herbe prolifère partout parce que le gouvernement a interdit de toucher aux végétaux qui captent les particules radioactives dangereuses. Et surtout, on voit des habitants qui là reflètent un peu le sentiment de nous, spectateurs, à savoir qu'ils sont un petit peu incrédules, puisqu'ils doivent abandonner leur maison alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'aussi concret que les tonnes de débris amassées par le tsunami. Évidemment, tous sont conscients du danger des radiations, mais en fait, voir ce village où au final presque rien n'a changé depuis la catastrophe, ça montre le côté presque absurde de la situation. Et en conclusion, je dirais que No Man's Zone, c'est un film déjà à voir, très simplement. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup de mérite. Déjà, il montre des images et des témoignages totalement inédits et par là très importants pour comprendre, pour avoir un autre regard sur la catastrophe de Fukushima et du tsunami. Et ensuite, parce que Toshi Fujiwara, le réalisateur, il arrive à nous faire poser des questions sur des des choses qui sont presque évidentes. Tenez, imaginez qu'on vous dise, sans rien vous montrer, tel village est touché par de fortes radiations, il faut l'évacuer. Spontanément, vous diriez, oui, c'est normal, c'est notre santé, etc. Maintenant, imaginez qu'on vous dise, votre ville est touchée par de fortes radiations, il faut l'évacuer. Et là, qu'est-ce que vous faites spontanément? Vous regardez autour de vous et vous ne voyez absolument rien de différent par rapport à d'habitude. Eh bien, selon moi, c'est là qu'on comprend vraiment ce que Fujiwara a appelé le pouvoir de l'image.
Merci Thomas, c'est un film qu'on peut voir à quel moment?
Alors on peut le revoir après-demain le 6 à 11h45, ici même à la Criée, dans la petite salle, ou bien le 8 à 9h30 au cinéma Les Variétés, la salle 5 plus précisément.
Demain tu nous parleras de quel film?
Alors demain je vais aller voir No Form, qui est le seul film taïwanais qui est présenté lors du festival.
C'est le Filmag sur la grenouille jusqu'à 19h. On va faire une première pause musicale. On retrouvera Miguel Gomez et Jean-Pierre Rem après. Mais on entendra une chronique aussi, celle de Julien Kirsch. La pause musicale est signée Blurt. Les Blurt seront présents au Festival Mimi demain soir. Le Festival Mimi organisé par l'association de musique innovatrice LAMI, qui sont à la Friche Label de Mai sur les îles du Frioul. 2 minutes de jazz punk bougalou. C'est le Feedmag sur Radio Grenouille. Julien Kirsch est chroniqueur pour ce Feedmag. Sa chronique s'appelle Diagonale d'écran.
Alors, je suis Vincent Tuzin-Aurès. Je fais partie de Photokino qui programme chaque année sur le Feed Marseille l'écran en parallèle Les Sentiers, qui est un écran destiné et ouvert à tous les publics. Je vais vous parler de Native American, qui est un film de Julia Grossman. On pénètre dans le film comme dans un sous-bois, en vol d'oiseau. On descend le long des chênes et des pins. On arrive dans une petite clairière dans laquelle on aperçoit un bivouac, quelques tentes de toile claire, un tipi, un feu de camp. Et puis soudainement, un cow-boy en toque de fourrure nous met en joue avec sa carabine et tire. Il tire sur des ballons multicolores, des ballons de fête foraine. Et d'emblée, voilà, le ton est donné. On se situe pleinement dans cet entre-deux entre fiction et réalité. On se situe dans le simulacre. À partir de ce moment-là, Julia Grossman se fait complice de toute une communauté de cow-boys et d'indiens en costume et à l'accent gascon. Une communauté qui semble jouer le jeu d'une reconstitution, mais une reconstitution qui n'est pas en carton-pâte, qui n'est pas bon marché. Ici, il semble que le jeu est poussé un peu plus en avant. On entre avec cette joyeuse galerie de portraits dans une utopie, dans le fantasme d'un passé reconstitué. Le fantasme d'une époque emplie de personnages truculents, de bagarres au saloon, d'aventures excitantes et de cow-boys intrépides.
Je m'appelle Touko. En 1850, j'étais dans le Kansas, dans les grandes rivières, j'étais chercheur d'or. Mais la vie était rude. Il faisait froid, c'était la loi du plus fort. J'étais obligé d'abattre des gens pour garder ma place.
Je ne vous dirai pas exactement où cela se passe, vous le découvrirez à la fin du film. Par contre, je peux vous dire que, effectivement, c'est le pays du simulacre.
Après avoir battu un chercheur d'or, j'étais obligé de partir et de fuir dans le sud du Mexique.
De ce point de vue, l'envie d'évoquer Native American est aussi un clin d'œil à l'affiche du film Marseille cette année, qui reprend une photographie de Thomas Dimond, qui est un artiste contemporain qui oriente l'ensemble de sa réflexion, de son travail autour de cette question de la reproduction à l'échelle 1 et du simulacre.
Et à un moment, j'ai rencontré des Mexicains, des malfrats, des bandits, et ils m'ont initié dans leur bande et à la suite, ils m'ont nommé Touko.
Si ce film se situe entre fiction et documentaire, c'est quasiment à l'insu de la volonté de la réalisatrice. Évidemment, elle met en scène, évidemment, elle joue le jeu de ses personnages, mais en même temps, ce sont vraiment eux qui sont les maîtres de leur mise en scène. Ce sont eux qui jouent le jeu et qui mènent le jeu. Certes, l'habit ne fait pas l'indien, comme le dit Kevin Dust, qui est l'indien du film, l'indien natif, donc le Native American du film.
I don't use my Indian name here. It is not the clothes that makes the Indian. It's the Indians who make what he is.
Il est lui-même issu d'une descendance qui remonte jusqu'aux tribus Crow du Montana. Mais en même temps, il est lui aussi dans la représentation puisqu'il exécute ses danses rituelles à l'occasion de célébrations de la culture Far West et aussi, comme il le glisse à la fin du film, à Disneyland Paris. Alors que les trappeurs et les cow-boys et indiens du dimanche que l'on croise dans ses clairières, dans ses sous-bois, semblent totalement investis par le paysage qu'il dessine et par l'illusion qu'il fabrique. Ce paysage précisément est vraiment capté magnifiquement par Julia Grossman dans des cadres qui jouent pleinement le jeu là aussi du cliché du western et au son d'une évocation électrique de Neil Young et du Dead Man de Jim Jarmusch. Native American sera diffusé deux fois durant le film Marseille, le vendredi 6 au Théâtre des Bernardines à 15h. La projection sera suivie d'une rencontre avec Julia Grossman. Et puis à nouveau le dimanche 8 à la Criée à 10h. Il fait partie donc de l'écran parallèle des Sentiers et de cette séance que nous avons intitulée, une séance de 4 courts-métrages que nous avons intitulée Deuxième Vie, Second Life.
On retrouve Miguel Gomez et Jean-Pierre M en direct du Théâtre National de Marseille La Criée sur La Grenouille, dont je rappelle le film Tabou de Miguel Gomez fait l'ouverture ce soir. Alors c'est un film qu'on pourrait annoncer sous les termes de l'humour, de la passion, de l'aventure, de l'intrigue et un crocodile. Dans ce film Tabou, il y a trois dames, une ferme en Afrique aussi, Santa, Pilar, Aurora. Il y a des hommes aussi, Mario, Ventura. Donc on a parlé tout à l'heure avec Miguel Gomez de ce rapport au cinéma de Murnau. Le film Tabou de Murnau sera d'ailleurs projeté dans le cadre de cette 23e édition du FID. Le rapport à ce cinéma donc des années 30 ou peut-être le cinéma américain des années 50 et puis le cinéma muet. Chez vous, ça va jusque dans l'emploi des moyens techniques pour filmer, puisque vous avez décidé de filmer en pellicule 16 mm. Miguel Gomez.
Oui, je trouvais que c'était la seule façon de ne pas tricher. Enfin, parce que j'ai essayé de faire un film honnête. Et donc, on ne peut pas faire un film qui s'appelle Tabou sans le filmer en noir et blanc et en pellicule. Et aussi parce que, je ne suis pas suffisamment malin pour... peut-être que je n'avais pas compris tout ça quand j'étais en train de commencer à préparer et à filmer. Mais pendant le procès, j'ai un peu découvert que le film s'organisait avec un rapport avec le temps et la mémoire. Et des choses qui vont disparaître. Ou qui sont en train de disparaître. Donc, dans les films, il y a un personnage, une vieille dame, qui va mourir.
Donc, et qui s'appelle Aurore.
Qui s'appelle Aurore. Donc, elle va littéralement disparaître. Et cette disparition va donner place à une société qui est aussi finie. Ça n'existe pas plus. Une société coloniale portugaise en Afrique. Et j'avais aussi la volonté d'établir un dialogue avec un cinéma, comme vous avez dit, qui est aussi éteint et aussi disparu, qui c'est le cinéma muet d'un côté, oui, mais plus en général le cinéma classique américain. Et donc je voudrais travailler aussi avec une matière qui c'est la matière centrale dans la fabrication des films, des cinémas, mais qui, maintenant, dans ces temps-là, est aussi en train de disparaître, qui c'est la pellicule, et la pellicule noir et blanc. J'ai même pensé au début, quand j'avais l'idée de faire ces films, que ça serait peut-être une des dernières possibilités de faire un film comme ça. Un film en pellicule, en noir et blanc, parce que tout ça, c'est un peu, maintenant, c'est un peu abandonné par l'industrie de cinéma, par des raisons économiques. C'est moins cher filmer en digital aujourd'hui. Et donc, mais au fond, je pensais que la seule manière honnête de faire les films, c'était de les faire comme milliers de réalisateurs avant moi ont fait ces films avec la pellicule et pas faire semblant qu'on filmait en digital et après il y avait ça il essayait d'avoir un look pellicule, ça c'est pas possible.
Film en noir et blanc, look pellicule, hommage à un cinéma disparu, ça rappelle peut-être des souvenirs en cette année 2012 à quelques-uns, The Artist de Michel Hazavanicius. Vous avez vu ce film, Miguel Gomez?
J'étais un peu obligé parce que tout le monde m'avait dit il va y avoir beaucoup de journalistes et ça c'est pas votre faute, mais il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont parler
faire
de ces
la
films.
Relation. Ouais.
Mais c'était vraiment une coïncidence. Je trouve, à mon avis, je trouve que The Artist, c'est un film c'est très bien fait et tout ça. Là. Mais peut-être, à mon avis, moi, je n'ai pas envie d'être méchant avec les autres réalisateurs. Mais étant pas limité par le fait que qu'il fait son opération, c'est d'essayer de reproduire, d'y arriver à ce monde du cinéma qui est disparu, essayant de copier, répliquer, copier sa esthétique. Et moi, je trouve, enfin, dans mon film, il n'y a pas, c'est pas un film muet comme des artistes où il y a une bande sonore, une musique qui accompagne les films. Il y a des intertitres, c'est comme ça qu'on dit en français, des intertitres. Mais moi, je sais que moi, je suis portugais, j'habite pas à Los Angeles et j'habite à 2012. Donc, je peux pas faire semblant que je suis à Los Angeles dans les années 20 ou quelque chose comme ça. Donc, pour y arriver, mais c'est vrai que j'avais l'envie de m'approcher de cette sensation que j'avais eue moi-même quand j'étais enfin plus petit et je regardais des films de Murnau ou des films de Mouet. Et donc, d'inventer un chemin pour arriver, pas dans une copie ou un pastiche d'un cinéma qui est mort, mais de la sensation que j'avais eue, que moi j'avais vécue quand je regardais ces films. Donc, la deuxième partie, il n'y a pas de dialogue, c'est vrai. La deuxième partie, c'est il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Et donc, pour moi, c'est une histoire qui s'est déjà passée il y a longtemps, il y a 51. Donc, c'est comme si les dialogues, les mots concrets qui étaient échangés entre les personnages, c'était un peu perdu avec le temps. Mais il y a la voix off, la narration du film. On entend et on écoute les chansons parce qu'il y a une bande, un groupe musical qui chante des chansons pop dans les films. On entend les bruits de la nature. Il y a la seule chose qui a disparu, c'était les dialogues emportés par les temps, je crois.
Oui, vous avez travaillé le rapport au muet comme un rapport au son, en fait. Pas tellement comme un revival d'années 30 ou 20.
Oui, je suis en train de discuter cette question du cinéma muet, je dis toujours que je crois que j'ai jamais fait un film si sonore que celui-là. C'est vrai. Mais il y a cette histoire. Mais bien sûr que c'était aussi un prétexte pour arriver à cette sensation que j'avais quand j'ai vu pour la première fois, par exemple, pourquoi pas Tabou ou d'autres films de Murnau, oui.
Nouvelle chronique dans ce feed Mac sur la grenouille jusqu'à 19h, Cinébé. Donc Cinébé, vous avez pu les entendre toute l'année, Bernard Favier, Cinéfice, et Philippe Bérard, programmateur, vous avez pu les entendre toute cette année, le premier, troisième dimanche du mois, sur Radio Grenouille, nous parler de cinéma autour de l'actualité des sorties plutôt. Ils vont nous accompagner aussi pendant ces 6 feed Mag à partir de ce soir jusqu'à lundi prochain que Radio Grenouille réalise en direct du Théâtre National de Marseille-Lacrier. Bonsoir Bernard et bonsoir Philippe. On va vous entendre parler du film El Jurado, mais avant, le petit générique de Cinébé.
Bonsoir Michel Gomez, puisque vous êtes à côté, j'en profite pour vous souhaiter un très joli mois de juillet, comme ce cher mois d'août, par exemple. Alors, CineB, avec Bernard Favier, bonsoir Bernard.
Bonsoir Philippe.
A décidé cette année de parler de deux écrans, la compétition internationale et la compétition française. Aujourd'hui, nous avons pu regarder plusieurs films. Nous avons d'abord commencé la journée avec un très 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 joli film de Todd Browning. Ce n'est pas la compétition internationale, ce n'est pas la compétition française, mais c'est ce choix qui émane du fil et qui nous permet de voir du cinéma. Donc nous avons vu ce film de Todd Browning, Les poupées du diable, et je conseille au public de bien regarder les séances, car dimanche prochain, un autre film de Todd Browning passera au Théâtre Sylvain, L'Inconnu, un film absolument prodigieux pour les grands et pour les petits, et un film qui est une espèce de conte cruel pour les enfants. Donc, concernant la sélection officielle et la sélection française, deux films. Le premier est Le jour à dos, Le jury, de Virginia Garcia del Pino. C'est donc un film de la compétition internationale. La réalisatrice a filmé un procès d'assassinat, un peu par hasard, nous y reviendrons, et plutôt trois jurés qu'un jury complet. Elle a décidé de filmer trois jurés, et donc nous avons comme ça le point de vue de l'image qui nous montre en très gros plan les jurés et un sonore qui nous explique l'assassinat et les trames de l'assassinat de façon assez juridique. Bernard, tu as vu toi aussi ce film ?
Oui, j'ai vu ce film. Et donc c'est un film que moi je dirais à dispositif, à savoir qu'il y a une partie image et il y a un contre-champ qui est sonore. Ce contre-champ sonore étant là pour aider le spectateur, enfin en tout cas le mettre en situation de reconstituer le film que les jurés sont en train de voir, puisqu'eux assistent à une projection vidéo de ce qui est en train d'être dit. Mais la réalisatrice fait quelque chose qui globalement, en général au cinéma, a beaucoup de difficultés à être réalisé, à savoir que on introduit de la subjectivité dans un espace où la subjectivité, en général, est totalement interdite. Quand il fait un film à dispositif, il met une caméra sur la personne qui est à la barre, une caméra sur la juge, et les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler dans un tribunal. Là, la cinéaste prend le risque et l'engagement de la subjectivité, à savoir que elle ne va pas nous montrer tous les jurés, il n'y aura pas un portrait de famille des jurés, et elle choisira les jurés en fonction de l'empathie qu'elle a pour eux, à savoir qu'elle les sélectionne en fonction de la plus grande liberté de pensée qu'ils sont supposés avoir par rapport à ce qui est en train d'être montré. Donc je crois que là, il y a effectivement une difficulté pour le spectateur, parce que le choix des jurés, au nombre de trois, les choisis, sont d'abord très jeunes par rapport aux autres qu'on effleure un petit peu, qui semblent beaucoup plus anciens, plus âgés. Donc il y aurait comme un choix esthétique par rapport à des personnages qui, à l'écran, pour moi, passeraient mieux que d'autres. Donc il y a une sélection. Bon, et puis, l'idée que ce contre-champ qui dure pendant tout le film, dont on sait à peu près qu'on va être dedans jusqu'au bout, nous emmène jusqu'au bout du film, jusqu'au bout. Il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui change l'axe de la prise de vue. La caméra avance sur, comme elle le dit, en zoomant, elle sait qu'elle aura une image qui sera un peu floue. Donc les personnages sont assez pastelisés. Le son, lui, est pris avec un jack directement sur la sortie de l'installation du tribunal. Donc on a un son numérique absolument formidable. L'image, elle, est volontairement traitée comme elle l'a traitée.
Merci Philippe et Bernard. On vous retrouve demain pour une autre chronique et jusqu'à lundi pour une autre chronique. Merci beaucoup.
Le petit générique. Ciné B, la chronique du cinéma.
Voilà, on se rapproche petit à petit de la fin de ce premier Feedmag en direct du Théâtre National de Marseille La Criée en l'occasion de la 23e édition du Festival International du Documentaire. Mais quelques questions encore à Miguel Gomez et Jean-Pierre Rem. Miguel Gomez, peut-être nous raconter un peu le film que vous présentez ce soir, Tabou, qui fait l'ouverture donc, du feed, qui a obtenu ce prix à Alfred Bauer à Berlin en février dernier, semble être une production beaucoup plus importante que le précédent, ce cher mois d'août, où je crois que d'ailleurs le manque d'argent de ce cher mois d'août avait presque agi sur l'écriture du film. Là, ça semble être quelque chose de beaucoup plus écrit, de beaucoup plus scénarisé.
Ah, mais ça, c'est la magie du cinéma, c'est que le mensonge. Donc, ni ce cher mois d'août était s'il n'avait pas tellement des problèmes avec l'argent comme ça, et c'est lui-là qui paraît pas avoir aucun problème, il avait les mêmes. Donc toute la deuxième partie du film, elle a l'air d'être très écrite, parce qu'il y a une voix off très écrite, mais la vérité c'est que toute la deuxième partie, c'était un peu comme C'est cher mois d'août, la première partie de C'est cher mois d'août. Donc, les scénarios étaient jetés à la poubelle parce qu'il y a toujours un jour, il y a toujours ces jours où mon producteur arrive en me disant « pas suffisamment d'argent pour filmer les choses que tu avais écrites ». Et bon, moi, je n'aime pas beaucoup ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux faire que deux choses. Une, c'est la première, c'est dire « non, j'ai écrit ces scénarios. Si tu n'es pas bon à la mathématique, c'est un problème à toi. Fais des additions encore plus une fois et retourne avec l'argent pour ces films que tu avais lus. » Donc, il avait, je ne sais pas, des éléphants dans ces cas, des éléphants, des scènes de mariage où les mariés venaient. Avec des éléphants, et beaucoup de gens qui dansaient, des gens blancs. Il y avait comme 10 blancs dans la région où j'avais tourné, donc c'était un peu difficile. Oh, il y a deuxième hypothèse, accepter la réalité, essayer de maintenir les désirs qu'on avait quand on a écrit les scénarios précisément, ce qui existe a priori avant qu'on écrit même la première séquence du film. C'est des désirs, des choses très concrètes. Et essayer de renouveler ce désir en intégrant, en renonçant à des choses qu'on avait pensé que ce n'était pas possible, et essayant d'intégrer d'autres choses pas prévues qui existent. Donc, la deuxième partie du film, c'est très romanesque. Il y a des crimes, des amours prohibis, des crocodiles romantiques, des chansons rock. Bon, tout ça n'était pas écrit. Les acteurs ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire chaque jour. On a formé, au milieu de l'équipe, un petit groupe qu'on appelait les comités centrales. Et le comité central avait par mission inventé, programmé, imaginé des séquences et éliminé des séquences qui étaient déjà pensées. Et donc refaire tous les films, toute la structure du film dans le tournage. Et les acteurs ne savaient pas, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Enfin, ils ne savaient pas en avance quelle scène ils devraient jouer le jour suivant. Donc je trouve qu'ils sont des acteurs, les meilleurs acteurs du monde, parce qu'ils sont quand même très généreux, non ?
Merci Miguel Gomez d'avoir passé ce moment avec nous. Donc je rappelle, votre film fait l'ouverture officielle ce soir du Festival International du Documentaire. Il sera également projeté dimanche prochain à 13h45 aux Variétés. Un dernier mot, Jean-Pierre Rem, jusqu'à lundi prochain, le FID propose quoi, une bonne centaine de films à voir.
150
films.
Et une bonne, ce sont 150 bons films, hein, vous dites une bonne centaines, c'est plus, mais ils sont tous bons.
Et pas mal de premières mondiales dans ces 150 films,
oui,
c'est toujours
très
aussi
nombreuses
important.
Là aussi, ouais. C'est tout un travail de faire cette sélection. Ouais.
Et l'enjeu de ces premières mondiales, c'est quoi ? C'est attirer le plus de monde possible à Marseille pendant ce feed pour...
Oui, on peut dire les choses comme ça, mais il y a quelque chose de plus profond qui est que si vous voulez, les festivals ont plusieurs vocations et certains choisissent l'animation culturelle d'une ville, d'une région. C'est très bien, c'est très important. On pense faire ça aussi. Mais d'abord, il me semble que notre vocation, c'est de défendre un cinéma qui se fait aujourd'hui. Et autrement dit, prendre des risques sur des films qui n'ont été montrés par personne. Montrer des films qui ont été déjà montrés, ça s'appelle programmer. Programmer, c'est un beau travail, j'aime faire ça. Mais je préfère encore à programmer, m'aventurer à des choix où personne ne m'a précédé. Et là, c'est-à-dire augmenter le nombre de films visibles. Hein, plutôt que faire circuler des films qui ont été ici ou là, je me dis, mais on va ouvrir. Il y a énormément de talents qui circulent, énormément d'envie de partager des choses qui sont faites. Pourquoi moi, je serais paresseux ? Donc, disons que plutôt que de le faire un peu timidement, disons je prends quelques premières ici ou là, je dis non, je le fais complètement. Je n'aurai que des premières mondiales ou des premières internationales. Même si, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, ce sont des règles qui sont appliquées uniquement au festival dit de classe A, et il n'y en a qu'un par pays, en l'occurrence c'est Cannes. Et donc on fait peser sur nous cette contrainte, parce qu'on a envie d'augmenter les films qui sont offerts ainsi au public. Et effectivement, vous avez raison, ensuite il y a beaucoup de programmateurs qui viennent de l'étranger, qui eux vont les faire circuler dans le monde entier.
Merci beaucoup Jean-Pierre M d'avoir également accepté notre invitation pour ce premier FIDMAG de la série, donc un FIDMAG qui aura lieu tous les soirs en direct de la Criée de 18 à 19h sur les ondes de la Grenouille et sur le site radiogrenouille.com. Demain le FIDMAG sera animé par Xavier Thomas autour d'un thème, puissance de l'image. Il aura trois réalisateurs qu'il réunira pour dire quelques mots autour de ce thème. Merci à Thomas Poveda, à Julien Kirsch, à Laure pour leur chronique, et à Cinébé, Bernard Favier et Philippe Bérard, des chroniqueurs que l'on retrouvera également sur les autres FIDMAG. Merci à Claire Astier qu'on n'a pas pu entendre ce soir parce que souvent la première émission on est un peu trop ambitieux en termes de temps, mais on l'écoutera demain. Et merci d'avoir été à l'écoute. Vous pourrez réécouter si vous le souhaitez ou télécharger cette émission sur le site radiogrenouille.com d'ici quelques heures. On se quitte à chanson avec une deuxième groupe programmée dans le festival Mimi qui lui se déroule jusqu'au 8 juillet prochain. Un groupe qui vient du Vanuatu et qui s'appelle, j'ai perdu le nom, mais vous les retrouverez facilement sur le site de Mimi. Ça y est, je me suis embrouillé dans toutes mes feuilles. Merci, bonne soirée à toutes et à tous, et merci avant tout à Adrien et à Djilali et à Yann à la technique qui ont fait une véritable performance ce soir. Merci à tous les trois.